sûr. Voilà. Voilà. Bien. Alors, on fait, comme d'habitude, un petit sondage express. Qui, dans cette salle, n'a jamais été ou ne connaît pas l'UTB et est venu à cette présentation? Voilà, une dizaine de personnes. Voilà. Bon, première question. Avez-vous connu l'existence de cette manifestation par vos amis? Levez le doigt. Une bonne moitié. Par Internet? Oui. Par la presse? C'est pas innocent la question. Voilà. Donc, merci d'être venu. Donc, l'objectif de cette présentation, je le rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est de présenter le programme des conférences, pour l'essentiel, avant le début des inscriptions. Je rappelle que nous avons une formule qui permet au mois de juin aux anciens adhérents de venir s'inscrire, ce qui nous permet d'éponger un certain volume d'inscriptions. Et ensuite, on prend les nouveaux inscrits à partir du mois de septembre. Si un nouvel inscrit se présente au mois de juin, on l'acceptera, sous réserve bien sûr qu'il paye sa cotisation. Voilà. Donc, eh bien, on y va. Donc, les objectifs sont toujours les mêmes. Je rappelle que notre cotisation, elle a pour but de financer notre fonctionnement, nos locaux, nos matériels, Muriel, notre secrétaire, et également le financement des émoluments et des remboursements que l'on fait aux conférenciers qui acceptent de venir faire des conférences ici à Châlons. Alors, nous avons une nouvelle plaquette et pour la deuxième année consécutive, nous avons réussi, oui, à faire que l'impression soit terminée vendredi dernier, juste avant cette présentation. Voilà. Merci pour les applaudissements. Voilà. Je peux vous dire que c'est quand même toujours un petit exploit parce que c'est toujours difficile. Le mois de mai, vous savez, il y a beaucoup de ponts et de jours fériés. Donc c'est pas facile, on y arrive. Mais c'est toujours limite. Ce programme annuel, ben, vous le lirez, vous en aurez des exemplaires à la fin de l'exposé. Il y en a dans ce gros carton là, et je ne les distribue pas maintenant, sinon vous allez lire au lieu de m'écouter. Hein, voilà. Bien. Alors, comme d'habitude, nous essayons de faire émerger des thèmes qui sont traités par plusieurs conférenciers différents. Donc, je vais les passer très rapidement en revue. C'est dans la continuité du programme de l'an dernier, on va parler de l'humanisme et de l'histoire, l'humanisme en général. Et le deuxième thème qui se recouvre complètement, c'est la révolution de l'imprimerie et toutes ses conséquences. Dans la même période ou un petit peu après, il y a eu toutes les guerres de religion. Donc dans les guerres de religion, on verra la partie bien sûr française, mais également la partie européenne, qui s'est passé dans le siècle suivant. Évidemment, nous sommes en 2019, donc on ne peut pas ne pas parler de la guerre 39-45, chose que nous n'avons quasiment jamais faite depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis 15 ans. Donc on attendait un petit peu ces périodes d'anniversaire pour remettre ça un petit peu en lumière. Les défis contemporains des relations internationales, donc il y en a beaucoup, vous les connaissez comme tout le monde, le Brexit, la rivalité Russie-USA, et Chine, vous avez les guerres informatiques, ce qu'on appelle les cyberguerres. En musique, on a la chance d'avoir découvert un professeur et un conférencier tout à fait extraordinaire qui est chanteur lyrique au conservatoire. Enfin, il fait des piges au conservatoire. Et il va nous faire une histoire de la chanson française, depuis le Moyen-Âge jusqu'à Jacques Brel, si vous voulez. Hein. Et je pense qu'il nous poussera un petit peu la chansonnette également. Les défis de santé publique, donc deux grands thèmes sur les vaccins et les antibiotiques. Les développements des technologies futures, ça c'est un thème un peu récurrent dans notre programme. C'est bien de parler du passé, mais c'est également bien d'essayer d'analyser les évolutions futures. Et ensuite, la cosmologie, puisque, vous verrez, nous avons réussi à obtenir la visite d'un homme éminent sur le sujet. Donc, on attaque la présentation du premier bloc de nos conférences, qui est, comme toujours, l'histoire de l'art, et c'est Françoise Rassovlev qui va vous l'exposer.
Oui, merci. Après ça, vraiment, peut-être faire un tout petit mot pour dire au nouveau que ce programme est constitué, a été forgé par un comité qui est le comité des programmes, qui comprend plusieurs adhérents, et chaque adhérent se charge de piloter un certain nombre de conférenciers. Voilà, ce qui vous explique pourquoi je prends la parole pour l'histoire de l'art. Alors, c'est vrai que l'histoire de l'art, ce fut le socle des conférences de l'UTB, mais depuis maintenant plusieurs années, il y a quand même eu dans le programme de l'UTB une extension vers d'autres thèmes et d'autres séries de conférences, en particulier scientifiques et techniques, qui permettent à l'UTB d'avoir des adhérents peuvent ne pas toujours être sensibles aux conférences d'histoire de l'art seulement. Hein. Pas oublier qu'on a quand même près de 700 adhérents et que là il y a des sensibilités très différentes et qu'il faut en tenir compte. Alors, cette année, bien sûr, nous continuons à avoir de nombreuses conférences et avec des objets tout à fait variés. Alors, on commence évidemment par un XP qui poursuit son travail sur les photographes et en particulier les photographes féminines. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui sont artistes et s'utilisent souvent comme sujet de leur photographie. Et c'est le cas de pas mal d'artistes qu'elle va nous présenter. Alors, il y a ensuite notre Claudie Roger qui revient en espérant que... Elle va tenir sur les quatre conférences. Bon, donc on poursuit avec l'histoire de l'art qu'elle a entamée. Donc on va aller maintenant vers Fernand Léger, Man Ray. Mais elle voudrait promouvoir une artiste contemporaine femme, Shana Orloff. Et puis, elle veut nous parler aussi, nous reparler de Gustave Courbet, qui est quand même un bourguignon, puisque maintenant, il est c'est Bourgogne-Franche-Comté, et que c'est un musée qui est quand même très proche de nous. Peut-être pourrons-nous en faire une sortie. Et puis, notre Capelazzi, à notre demande, va nous emmener au musée des Offices à Florence et il a programmé un voyage en Toscane, mais à l'heure actuelle, c'est plein. Alors, peut-être on va, nous, en faire un autre. Voilà, parce que bon, c'est dommage, déjà à 20 mois du voyage, c'est déjà plein. Alors, Mathieu Pinette va continuer sur la sculpture. C'est un objet d'étude qui qui n'est pas facile. Donc, comme nous sommes dans la Renaissance, eh bien, il nous montrera des œuvres de Ligier Richier et d'Andrea della Robbia. Et puis, en peinture, eh bien, évidemment, Luca Cranac et Hans Holbein. Donc là, nous sommes dans le Nord. Hein. Nous étions dans le Sud avec Andrea della Robbia et dans le Nord avec Luca Cranac et Hans Holbein. Et Monsieur Curnier-Laroche, eh bien, nous montrera, nous parlera de l'art byzantin. Alors, nous sommes avant la Renaissance, mais Dieu sait si la Renaissance, en particulier, s'est inspirée, si vous voulez, de l'art byzantin. Alors, pour ma part, Roger Courreau. Roger Courreau, qui revient hein, pour la quatrième année, ben, poursuivra sur le cubisme, hein, puisque c'était en deux parties. Il nous parlera de Jean-Michel Basquiat, dont il y a eu plusieurs expositions, aussi bien à Londres qu'à Paris, et qui est un artiste contemporain, et hélas mort trop jeune, mais qui a grandement révolutionné l'art contemporain. Voilà, et pour ma part, je poursuivrai les biographies avec celle de Daniel Henri Kahnweiler, marchand d'art, et qui a été un promoteur des surréalistes. Bon, et on s'intéresse là à la création artistique sur Internet. C'est vraiment tout dernièrement hein, que s'est développée une forme d'art qui utilise de nouvelles techniques. Et c'est franchement intéressant. Vous voyez tout ce qu'on peut faire, parce que c'est du virtuel, mais on peut imaginer des choses tout à fait étonnantes, extraordinaires. Alors, pour certaines, on peut se demander quelle va être la pérennité hein, du support en particulier, et puis la pérennité de l'image virtuelle, parce que là aussi, mais il y a un développement tout à fait extraordinaire. Voilà, et puis, alors dans le même ordre d'idées finalement, hein, parce que, bon, remontons en arrière, mais c'était déjà ça, les cabinets de curiosité, hein, où des mécènes et des gens souvent assez riches, hein, ont pu regrouper dans des cabinets de curiosité ce qu'étaient les connaissances de l'époque, tant en matière scientifique qu'en matière artistique. Hein, donc c'est tout à fait intéressant. C'est Frédéric Cousin, évidemment, qui nous en parlera. Et puis, il parlera aussi d'Albrecht Dürer qui a été extrêmement important, Albrecht Dürer, dans le développement artistique en Europe, puisque allemand, hein, il a peint lui-même, fait des dessins, mais il a surtout diffusé par des reproductions d'œuvres d'artistes de son époque, à travers la gravure, ce qui était fait aussi bien dans le nord que dans le sud, et à partir des gravures d'Albrecht Dürer, s'est diffusé tout un répertoire, si vous voulez, de formes, hein, de formes et de sujets qui sont devenus presque, enfin, figés, emblématiques. Hein. Voilà, et Laure Ménétrier, qui est déjà venue, hein, qui est directrice des musées de Beaune, donc elle est notre voisine, eh bien, confrontera Rubens et Rembrandt, ces deux maîtres de la peinture nordique et qui ont eu aussi énormément d'influence. Philippe Clémenceau nous parlera des jardins. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on se disait, mais tiens, il faudrait parler des jardins, qui est une forme d'art. Hein, il y a des jardins exceptionnels. Et donc peut-être pourrons-nous en visiter un ou deux dans notre secteur, à la suite évidemment de sa conférence. Alors, poursuite avec Cyril Brûlé, des conférences sur l'architecture moderne. Et là, nous sommes au début des années 30 avec Adolphe Loos, et puis plus tard, évidemment, après-guerre, avec André Wojcinski, qui est un moderniste, hein, évidemment. L'histoire de Paris par la photo de Maurice Cottin, par Maurice Cottin, qui est un Parisien d'adoption et qui ne manque pas lorsqu'il y va de faire des photos. Il est dans la salle, je ne dis pas de bêtises. Et donc nous nous promènerons avec lui dans Paris. Et enfin, Annick Le Guerrer revient pour nous parler des parfums. Et cette fois-ci, il s'agit des épices dans les parfums. Donc, nous allons respirer encore une fois de très, très bonnes odeurs.
Bien, je reprends la parole sur le bloc de l'histoire. Donc, en volumétrie, la totalité des conférences d'histoire, c'est du même ordre de grandeur que l'histoire de l'art. Si on inclut dans l'histoire de l'art le dernier bloc dont on va parler à la fin, le théâtre, la musique et le cinéma, bien sûr. Donc, on utilise les classifications habituelles dans l'histoire. Donc, on essaie de regrouper ça un petit peu. Donc, histoire moderne, je rappelle, ça veut dire avant la Révolution, hein, du Moyen-Âge à la Révolution. Histoire contemporaine, après la Révolution. Histoire et le reste, c'est facile à comprendre. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler des guerres de religion, essentiellement en France. Donc, il y en a eu 7, si le décompte est bon, jusqu'à ce que Henri IV finisse par apaiser transitoirement les agitations religieuses en France. Donc, vous avez un tableau typique du XIXe siècle, très romantique, entre guillemets, qui montre la Saint-Barthélemy, c'est moins agressif que d'autres gravures que vous connaissez par cœur. Et la deuxième, c'est la guerre de 30 ans, la guerre oubliée de l'Europe centrale, donc au XVIIe siècle, qui a duré quand même, comme le nom l'indique, 30 ans, et qui a impliqué quasiment tous les pays d'Europe, essentiellement les pays germaniques, et qui a fait plus de 60 millions de morts, c'est-à-dire qu'en proportion, la guerre de 30 ans a fait plus de morts que la Deuxième Guerre et la Première Guerre mondiale. Ça, on l'oublie. C'est quand même... Alors, évidemment, ça a duré 30 ans, mais les moyens de destruction n'avaient pas la capacité qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué, et donc, ça mérite... on pourrait faire tout un cycle là-dessus. On y a consacré une conférence. C'est Françoise Guérin qui nous parlera de ça. Donc, dans la même période, évidemment, Henri IV est incontournable, évidemment, du début jusqu'à la fin. Et Louis XIII et Richelieu, c'est Robert Caspry qui nous parlera de ça. Évidemment, c'est tout à fait pertinent de les coupler. Donc, venez écouter Robert Caspry, que je rappelle qu'il était professeur d'histoire au Creusot. Ça fait déjà plusieurs années qu'il vient nous rendre visite. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, eh bien, tout ce qui tourne autour de l'imprimerie et de l'humanisme. Alors, premier thème, l'éducation. Comment on est passé de l'éducation qui était très archaïque, on va dire, au système tel qu'il existait juste avant la Révolution. Donc en trois épisodes par François Vion-Delphin, qui est le président de ce qu'on appelle l'Université ouverte à Montbéliard, qui vient déjà depuis de très nombreuses années. Évidemment, le pape ou le prince des humanistes, Erasme, 1469-1536, on a tout ça dans nos livres d'histoire, c'est Monique Roux qui nous en parlera. Et en symétrie, un titre qui est un petit peu interrogatif, les rois qui savaient lire, c'est-à-dire quelle est la relation entre les puissants et les dirigeants et la culture. Et vous savez que j'ai mis François Ier parce que il est célèbre par son édit de Villers-Cotterêts où il a institué le français comme langue administrative officielle. Un autre thème, alors Monsieur Courriol, qui nous avait fait un thème sur le prêt à intérêt, qui était un interdit très fort par la religion. Alors, pourtant, le prêt à intérêt existait, et on lui a demandé de faire une conférence symétrique, c'est-à-dire comment les gens s'enrichissaient-ils sous l'Ancien Régime, en violant, d'une certaine manière, les interdits religieux. Alors, la guerre de 39-45, sujet, hélas, inépuisable. Donc, il nous a paru intéressant de faire déjà une biographie de Hitler, c'est-à-dire de ses jeunes années jusqu'à la fin, en 1945. Pourquoi cet obscur a émergé de l'ombre, c'est le cas de le dire, et a eu la destinée, à notre grand regret, qu'il a eu. Donc ça, c'est toujours intéressant d'essayer de décortiquer tout ça. Ensuite, les raisons de la guerre, qui sont extrêmement complexes, et qui ne sont pas seulement liées à l'impérialisme nazi, si vous voulez, et ensuite les mécanismes dans la dernière année qui ont conduit au déclenchement effectif de la guerre, et vous voyez les coupables, enfin, ou les impliqués, qui sont... Attendez, je vais mettre... qui sont... qui sont ceux-là. Alors... je fais un petit quiz là, vous reconnaissez ce monsieur là? Monsieur Chamberlain. Celui-là, vous le reconnaissez? Monsieur Daladier. Bon. Il est un peu oublié, alors ceux-là, on ne les a pas oubliés, bien sûr. Hitler et Mussolini. Alors, on a souhaité, par M. Queneau, qui nous a fait déjà une conférence sur les intellectuels vis-à-vis de la Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels français. Et donc, on a cherché à voir... Mais il y a eu des antinazis du temps d'Hitler. Et donc, c'est intéressant d'avoir un éclairage sur cet aspect des choses. Voilà. Ensuite... on revient un petit peu sur deux grands chefs de guerre. Hitler, chef de guerre, donc c'est notre ami François Kersaudy, le biographe de Churchill, qui est déjà venu là plusieurs fois et qui est tout à fait extraordinaire, et qui va nous expliquer quelles étaient les qualités et les défauts d'Hitler, chef de guerre, puisqu'il était totalement incompétent dans le domaine. Il avait une autorité naturel et qui a fait qu'il s'est opposé très souvent aux généraux de la Wehrmacht. Donc on le voit là dans la salle de guerre en action. Et de la même façon, Churchill, stratège, donc c'était un stratège, il a fait autant de bêtises qu'Hitler, donc on en parlera, François Kersaudy en parlera, venez l'écouter. Je rappelle que François Kersaudy parle 7 langues. Et quand il parle de Churchill et qu'il cite Churchill, il parle comme Churchill, et en français et en anglais, avec le même accent que Churchill. Il y a un don d'imitation extraordinaire. Quand il parle de Gaulle, évidemment, c'est de Gaulle qui parle. Hein. Donc venez l'écouter, ça vaut le détour. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Voilà. Donc ensuite, bon, l'autre volet du totalitarisme, c'est le fascisme. Donc voilà, Monique Roux nous expliquera l'émergence du fascisme en Italie. Et Monique Roux, c'est une amoureuse de la Corse, et elle nous a proposé de faire une histoire de la Corse. Alors, bien sûr, on a accepté toujours, et donc en deux séquences. Alors, je fais le quiz. Alors, ce monsieur, vous connaissez ce monsieur là en Corse? Paoli, voilà, j'ai entendu. Pascal Paoli, et vous ne savez sûrement pas, mais si vous venez l'écouter, vous le saurez, c'est le premier endroit au monde où il y a eu une constitution en Corse. Avant les États-Unis. Ça n'a pas duré très longtemps, mais la première constitution d'un État qui n'a pas duré très longtemps non plus, c'est en Corse qu'elle a eu lieu. Voilà, et la partie nationaliste de, donc, du XXe siècle. Ensuite, alors nous avons Madame Lejar-Larue. Est-ce qu'elle est dans la salle, là, Madame Lejar-Larue? Elle avait dit qu'elle viendrait, non, elle n'a pas pu venir. Si, elle est là? Ah, bonjour Monique. Madame Lejar-Larue, donc, qui va nous parler de la création d'Israël, qui remonte fort loin, puisqu'il faut remonter au milieu du 19e siècle, avec l'émergence de ce qu'on appelait le sionisme. Hein. Et alors, bon, je dis simplement, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Monsieur Balfour, monsieur, la déclaration Balfour. Donc, il y a un membre du gouvernement anglais qui a, en 1917, dit qu'il fallait faire un foyer juif en Palestine. Bon, mais c'est, vous venez l'écouter, elle vous expliquera tout ça dans le détail. Ensuite, Jean-Marie Vigoureux, alors je rappelle, c'est notre conférencier extraordinaire d'histoire des sciences et de philosophie des sciences, et qui nous propose une chose qu'il nous avait faite il y a 12 ans, mais qu'il a remis à niveau, c'est-à-dire la représentation du monde depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Le choix n'était pas innocent. Nos choix ne sont jamais innocents, de toute façon. C'est mûrement réfléchi, bien sûr. Mais comme on a une thématique d'astronomie qui est assez développée cette année, donc on a un retour sur le passé qui peut être intéressant, si vous voulez. Ensuite, un de nos abonnés aussi, M. Jacques Fauss. M. Jacques Fauss est un professeur de physique nucléaire qui nous a parlé beaucoup de la fission, de la radioactivité, etc. etc. Et cette année, il nous propose ce thème-là, « Que devons-nous aux découvertes du XIXe siècle ?» Alors là, quand j'ai voulu... Alors, je vais déjà montrer les deux personnages. Alors, je fais un test ici. Déjà, celui de droite, là. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là, avec la petite moustache? Tesla, voilà. Monsieur Nikola Tesla. Il a inventé beaucoup de choses, mais entre autres, il a inventé le courant alternatif, qui a permis le transport de l'électricité à longue distance. Et ce monsieur, est-ce que vous le connaissez? Vous allez me dire, au XIXe siècle, il ressemble tout ça. Donc il n'est pas... C'est M. Maxwell, qui a fait les lois mathématiques de l'électromagnétisme. Ah, maintenant, je reviens en arrière. Est-ce que vous connaissez ça? Ça vous dit quelque chose? La pile de Volta. C'est bien, à gauche. Voilà, gagné. Et ici? Alors ça, c'est la dynamo. La dynamo, c'est le premier moteur électrique qui existait, et la dynamo de M. Zenob Graham, qui était un Belge, 1869. Il s'est passé beaucoup de choses en 1869 dans le monde. Voilà. De la même façon, on en a déjà un petit peu parlé, M. Luneau va nous dire l'émergence de la chimie. Et je rappelle que ça fait écho à la table de Mendeleïev, pour laquelle j'ai fait des conférences dans les lycées là, cette année, puisque c'est le 150e anniversaire de la publication de cet outil d'analyse. Donc, et là, évidemment, vous voyez M. Lavoisier et surtout Madame Pauls, qui était son épouse et qui a fait toutes les gravures de ses publications scientifiques. Et là, on va vous parler d'une dame dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi non plus d'ailleurs, mais c'est une de nos conférencières, Madame Bardez, et qui est d'ailleurs une ancienne collègue de Monsieur Fauss, là, au CNAM, et qui va nous parler d'une scientifique dans une ambiance cabinet de curiosité, si vous voulez, et qui a, c'est la Madame du Châtelet, on va dire, de la fin du XVIIIe siècle. Alors, histoire industrielle, on va changer complètement d'époque. Et alors là, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Évidemment, j'ai mis son nom. Hein. C'est monsieur Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Et la dame qui est à côté de lui, c'est son épouse, c'était son épouse, puisqu'il vient de divorcer, hein, Mackenzie. Alors, je vais vous faire, je vais vous raconter la vie de cet homme-là, qui est totalement extraordinaire, extraordinaire, comme j'ai fait un petit peu monsieur Elon Musk, il y a quelques semaines, là. Monsieur Elon Musk, c'est le patron de Tesla, le constructeur de voitures électriques. Et donc, comment ça se fait que Amazon est parti de rien, c'est le cas de le dire, et est devenu ce qu'il est devenu, avec tout ce qu'on peut en penser, et on peut en penser du bien et beaucoup de mal. Et donc, je vais essayer de vous expliquer le mécanisme qui a fait que cette chose-là existe. Alors, un de nos adhérents nous a proposé, qui est un ancien des travaux publics, de faire une histoire des ponts, ce qui n'est pas du tout inintéressant, surtout à Chalon, puisque vous savez qu'on a la chance d'avoir un pont qui a des origines très anciennes, le pont Saint-Laurent. Hein. Voilà, on va parler de ça. Et, histoire des civilisations, alors là, une conférence qui, à mon avis, va être très intéressante, d'Ahmed Jebar, qui vient une fois par an, et qui se pose la question, pourquoi les sciences, au sens moderne du terme, n'ont pas émergé dans les pays d'islam? Est-ce qu'il y a des facteurs culturels, religieux ou sociétaux qui ont fait que la pompe ne s'est pas amorcée comme ça s'est fait dans le monde occidental? C'est une conférence qui ne fait pas dans le Golfe, ça. Il l'a fait qu'à Chalon. Évidemment, c'est un peu sensible. Alors, comme j'annonçais dans l'introduction, évidemment, nous parlerons de l'histoire de l'imprimerie. Ça, c'est un sujet inépuisable. Et là, on a la chance d'avoir dégoté M. Frédéric Barbier, qui est le meilleur spécialiste de l'histoire du livre en France, et qui est surdiplômé du CNRS et de l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm. Voilà. Et qui en plus est très sympathique et très volubile. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai réussi à le convaincre de venir à Chalon. Alors je vais vous faire une deuxième conférence, puisque, je ne sais pas, ça doit être l'air du temps. Il y a des penseurs qui se posent des tas de questions en disant ben, où en est-on de l'évolution humaine au sens anthropologique du... Et donc il y a deux auteurs qui ne sont pas concertés, hein. Donc Emmanuel Todd, j'en parle souvent, bon, c'est plutôt un sociologue et un démographe français, et Yuval Noah Harari, qui a fait une trilogie qui a eu un écho très fort, qui s'appelle Sapiens, s'appelle Homo Deus et 21 questions pour le 21e siècle, que je vous conseille de lire. On aime ou on n'aime pas, mais c'est tout à fait décapant, c'est un Israélien. Donc j'essaierai de faire la synthèse de ces deux études qui sont passionnantes, parce que les livres, c'est deux pavés énormes, et donc j'essaierai d'en retirer le jus le plus synthétique possible. Monsieur Lyonnais va nous parler de la question raciale, esclavage et racial aux États-Unis. D'ailleurs, monsieur Todd, dans sa conférence ici, a un chapitre très intéressant sur le même thème, dans la question raciale à la fin du XXe siècle aux USA. Donc on pourra recouper les deux thèmes. Et en histoire locale, on remet les compteurs à zéro pour l'hôpital de Chalon, et on va parler de la charité dans les hôpitaux chalonnais avant la Révolution. Et vous savez que c'est la conférence traditionnelle qui est couplée entre le service du patrimoine de la ville, Madame Morin-Dufoy, et Françoise Rasselbeuf, qui précède en général l'AG de l'association Abigail Mathieu.
Qui sera concomitante avec le lancement de la souscription pour la restauration de la salle des États, qui était anciennement l'endroit où on distribuait la soupe populaire.
Donc vous avez compris, vous venez avec votre carnet de chèques et votre portefeuille bien garni.
Un petit livret, voilà. Sur ce sujet, qui sera publié en même temps.
Alors, histoire des religions. donc Monsieur Petrinipoli, qui nous a parlé de l'Arménie l'an dernier, nous a proposé ce sujet sur l'hindouisme. Alors l'hindouisme, on a eu une conférence il y a 7 ou 8 ans sur l'hindouisme par un hindou, hein, et là on va voir le même thème, mais par un occidental, c'est-à-dire la vision de l'hindouisme par un occidental. Alors, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà vu ça dans les magazines, ça c'est la fête des couleurs, qui correspond à la nouvelle année, on dirait que c'est l'équivalent de Pâques dans notre tradition occidentale, ça s'appelle Holi, H-O-L-I, et donc tout le monde se souffle des poudres de couleurs sur la figure, c'est un peu comme les gognos si vous voulez, hein, voilà, hein. Holi. Et voilà un thème sur l'histoire des religions qui va vous interpeller. Quand Dieu était une femme, ou les religions et les femmes. Voilà. Et donc, alors, là, c'est pas... vous voyez une dame qui tient une hostie et devant, donc vous pouvez imaginer où est-ce que ça se passe. Ça existe, hein, c'est pas... c'est la religion anglicane. Je rappelle que les anglicans n'ont pas d'ostracisme vis-à-vis des femmes dans le clergé. Alors, sociologie. Monsieur Pascal Mouni, qui nous fait des conférences sur la sociologie, nous dit toujours l'année suivante, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que vous allez me faire en sociologie, j'ai déjà tout fait, qu'est-ce que vous voulez, on sait pas quoi lui dire. Alors, à chaque fois, je lui propose un thème, il dit, ah d'accord, ça me plaît. Hein? Donc je dis, faites-nous la sociologie de la presse. Ah ben oui, je prends. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai pris la couverture d'un livre, Presse à scandale, scandale de presse. Donc, on pourra avoir un débat après la conférence. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je laisse la parole à Michel, qui est par ici, par là. Voilà, allez-y.
Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler des conférences sur la littérature. Stéphane Le Couédic continue un peu dans la même veine que cette année. Il nous avait fait la littérature fantastique. Là, il va nous parler de l'utopie avant Jules Verne, avec 4 conférences, les utopies politiques, les rêves de progrès, les rêves du passé et les rêves du futur.
Voilà.
Ensuite, oui, je me trompe de truc. Ensuite, bien, nous retournerons à la Renaissance avec la littérature, avec Rabelais, bien entendu, écrivain humanisme que l'on connaît. Également de la Renaissance, mais peut-être moins connu, les femmes poètes au XVIe siècle en France, par Marie-Laurentine Caetano, qui avait déjà fait une conférence un peu similaire. Elle continue de nous parler de Lyon aussi, de Lyon, foyer intellectuel au XVIe siècle, donc à la Renaissance. Il est vrai que Lyon, à la Renaissance, est une cité marchande qui rayonne beaucoup, particulièrement avec l'imprimerie. C'est un des 3 centres européens de l'imprimerie. Et elle nous parlera également de Montaigne, philosophe, écrivain que tout le monde connaît.
Et maire de Bordeaux.
Et maire de Bordeaux.
Voilà, accessoirement.
Françoise Rasselhoff-Lève nous parlera de Dante, poète, écrivain, penseur, homme politique, enfin une personnalité importante. Toujours en littérature, Catherine Weissmann abordera Pierre et Marie Curie, mais dans une approche intime du couple.
Alors, il s'agira de lire des extraits de leur correspondance personnelle. Voilà.
Quant à Edith Lombardi, elle nous parlera...
Ne riez pas, c'est un mythe.
Parce que mon micro s'était décroché.
Non, il faut bien parler dans le micro, là.
Mais je parle bien dans le micro, il s'était décroché. Alors, Marbre bleue, donc un mythe, bien sûr le conte de Charles Perrault, mais je pense qu'elle ira plus loin. marche, oui.
Oui, oui.
Oui, ça marche. Bon. Alors, ensuite, dans les questions de société, on a une conférence de Philippe de Terre. Quel crédit accorder aux prévisions transhumanistes ? Effectivement, améliorer les capacités humaines, physiques, mentales, qui n'en rêve pas, mais est-ce que ça marche vraiment ? C'est autre chose. Michel Lécuyer nous fera une conférence sur les antisémitismes, donc sur les hostilités à l'encontre des juifs, tant au point de vue groupe ethnique que groupe religieux. L'histoire des impôts, monsieur Benoît, du Moyen-Âge à nos jours.
Ne riez pas. Ne riez pas.
Bah, oui. Tout le monde comprend ce que ça signifie. Ensuite, toujours dans les questions de société, une autre utilisation des plantes transgéniques modifiées, la production de molécules à usage thérapeutique. En effet, ces molécules, on en a de plus en plus besoin. Et si les bactéries modifiées, les bactéries, les levures modifiées ont été les précurseurs dans cette production, il apparaît maintenant que certaines plantes peuvent aussi être transformées génétiquement et produire des molécules.
Comme l'insuline, par exemple.
L'insuline, c'est plutôt les bactéries.
Oui, oui. Oui. Bon, j'ai dit une bêtise alors.
Je me fais... Non, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ensuite, en psychologie, qu'une seule conférence, mais importante, sur la mémoire humaine, par Patrick Bonin. La mémoire humaine, donc cette fonction essentielle. Et cette mémoire qui paraît ne s'use que si on s'en sert pas. L'écologie, une conférence sur la mobilité, le défi majeur de l'aménagement du territoire et de l'écologie, par Landry Léonard. Une deuxième conférence très importante aussi sur le recyclage des plastiques.
C'est un adhérent qui nous fait cette conférence et il était industriel, il s'occupait de ce type d'activité. Voilà.
Et le recyclage des plastiques, c'est vraiment un défi majeur pour notre temps. Tout le monde a certainement en tête les images affreuses qu'on voit partout. Ensuite, en philosophie. Alors, en philosophie, monsieur Le Pilouer continue de nous parler de Jean-Jacques Rousseau avec le contrat social. Et monsieur Guénantia s'attaque à Kant avec une première conférence sur la critique de la raison pure, une deuxième conférence sur la critique de la raison pratique. Donc logiquement, il reste la critique de la façon de juger. Je pense qu'il nous fera ça l'année prochaine. En philosophie toujours, une question importante. Peut-on tout dire ? Par Madame Simonin, agrégée de philosophie. Et l'illustration de Philippe Geluck parle d'elle-même.
Ok, vous avez compris ?
Ensuite, en droit, nous avons deux conférences. Une première conférence sur la crise du multilatéralisme à l'OMC par Hélène Tourard, maître de conférence en droit. Encore du droit avec le droit de la mer. C'est vrai que les océans, la mer sont un domaine où la réglementation doit être importante vu l'usage qu'on en fait.
Alors c'est monsieur Jean-Louis Fillon, hein.
Jean-Louis Fillon, oui, non pas.
Monsieur Jean-Louis Fillon, c'est un militaire, hein, un marin, et donc on a pensé que c'était intéressant de parler du droit de la mer parce que personne ne le connaît. Et beaucoup de choses qui sont liées en particulier au problème des migrants sont encadrés par des lois qui datent du XVIe siècle, qui ont commencé et qui viennent du droit de la mer. Donc je pense que c'est une excellente révision, pour ne pas dire une découverte, de savoir qu'est-ce que c'est que ce droit de la mer.
À vous.
Oui, allons-y. J'enchaîne. Alors, économie et géopolitique. Je rappelle que ce thème, nous l'avons un petit peu introduit quand je suis arrivé à la présidence de l'UTB. C'est un thème qui est toujours très actuel. Et donc, c'était un thème inexistant dans les années précédentes. Donc, il remporte toujours beaucoup de succès. Donc, la rivalité stratégique Chine-États-Unis, bon, on ne parle que de ça dans les journaux, c'est pas difficile de trouver les titres, dès que c'est M. Véran, que tout le monde connaît, qui nous fera cet exposé. On va parler également de l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie sort d'une guerre civile sanglante pendant 30 ans, tout simplement parce que les deux dirigeants du moment de l'Érythrée et de l'Éthiopie, dont vous avez les portraits dessous, là, se sont entendus pour calmer le jeu. Donc, M. Michaud nous parlera de l'Éthiopie. Et, évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler du Brexit, puisque j'ai dit, au moment où on s'est mis d'accord sur cette conférence, quoi qu'il arrive, je pense qu'au moment où il fera sa conférence, on en parlera encore, et quel que soit le scénario possible. Évidemment, c'était pas difficile de trouver des images claires, illustratives. Manque de peau, Madame May, elle a démissionné il y a 2 jours. Enfin bon, elle fait partie de l'histoire. Ensuite, la théorie de la monnaie. Alors ça peut paraître très théorique. Pourquoi ? Quels sont les concepts qui sont derrière la théorie de la monnaie et qui font qu'on a confiance, entre guillemets, dans une monnaie. C'est pas si simple que ça, et il y a tout un corpus théorique, si vous voulez, qui est à connaître. Voilà. Ensuite, les cyberguerres. Alors, j'ai trouvé un dessin rigolo, là. Vous voyez, quel sera le soldat du futur, hein, voilà, dans le... Voilà le, hein. Et puis, le gars qui est là devant son ordinateur, il dit, « regarde derrière toi. » Donc ça veut dire bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y aura des cyberguerres. Nous sommes en cyberguerre au niveau mondial. Tous les pays sont en guerre contre tous les autres pays, et d'une façon tout à fait intense. Et de temps en temps, on sort un petit événement là-dessus. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on est en guerre contre nos propres alliés, bien sûr. Donc c'est un vrai sujet, et c'est l'amiral Coldefy qui nous fera cette conférence. Ensuite, eh bien, le retour de la Russie, toujours notre ami Poutine, qui est inépuisable, hein, et on le voit, le tsar Poutine, qui apparaît dans l'entrebâillement des portes. Donc Philippe Comte qui va nous parler ça dans la continuité des conférences qu'il nous a déjà faites. Et bien sûr, on a réinvité les deux sœurs.
Oui, c'est moi qui prends la parole.
Ah, bon, pardon.
Allez. Bah, reposez-vous un peu. Voilà. Donc, trois conférences de biologie-médecine, et nous avons axé autour des enjeux actuels. Hein. Alors, les cancers digestifs héréditaires par nos deux jeunes femmes, hein, qui, nos deux docteurs très, très, très passionnantes. Et c'est un enjeu, car faut-il partir à la recherche des cancers ? Faut-il nous faire analyser constamment pour voir si nous sommes susceptibles de développer un cancer ou bien non ? Et quel coût ? Autre sujet très important par Françoise Salvadori sur la résistance au vaccin d'hier et d'aujourd'hui, hein, puisque il y a une critique sur les vaccins actuellement parce que certains ne couvriraient plus suffisamment d'individus. Et alors, faut-il arrêter ? Faut-il reprendre ? Donc, c'est un enjeu vraiment capital, hein, pour la santé publique.
Et puis, autre enjeu capital, la résistance aux antibiotiques, par Patrick Bersch, hein, qui nous arrive de Paris, hein, grâce à Patrice Debré, hein, qui nous a mis en relation avec ce professeur, ce chef de service. La résistance aux antibiotiques, c'est un enjeu majeur, car il y a maintenant des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, et en particulier en milieu hospitalier, ce qui est le plus dangereux, bien sûr.
Bien, on reprend les sciences et techniques. Comme j'ai dit dans l'introduction, on a un programme très complet d'observation de l'espace par notre astronome patenté, donc Monsieur Michel Bonnin, et qui va balayer toutes les fréquences de l'observation de l'univers. Et Dieu sait si les technologies se sont améliorées d'une façon considérable et les découvertes qui vont avec. Alors, en complément et cerise sur le gâteau, nous avons obtenu que M. Jean-Loup Puget, dont on a parlé dans le journal de Saône-et-Loire, qui est un astrophysicien qui est né à Châlons, qui a fait ses études à Châlons, et qui a accepté de venir nous faire une conférence sur la cosmologie, c'est-à-dire les théories sur la naissance de l'univers, le Big Bang, et le mur de Planck. On ne voit pas le mur, mais il va vous expliquer ce que c'est. Ce n'est pas facile à comprendre. Et donc, vous voyez cet énorme engin, là, ici. C'est le satellite dont il s'est occupé. C'est le satellite qui s'appelle Planck. Monsieur Planck, c'était un... Max Planck, c'est un physicien allemand qui a sorti une théorie qui est la théorie de Planck, qui est la théorie des quantas, en 1900. Il va vous expliquer tout ça. Ensuite, quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle. Donc, monsieur le professeur Nicole, là, qui est à Dijon, avait fait une conférence d'intérêt général qui nous avait beaucoup plu, et on lui a demandé de revenir et de nous citer quelques exemples d'intelligence artificielle, parce qu'on fantasme beaucoup sur le sujet. Et donc, j'ai pris comme exemple ici, vous voyez, la reconnaissance faciale, qui est déjà largement utilisée, comme vous le savez, dans les aéroports. Autre sujet plus que battu, rebattu, la voiture du futur, amélioration ou mutation, que sera-t-elle vraiment? Donc, vous écouterez la synthèse qui sera faite par M. Luneau. Et qui va de pair, donc M. Alain Legac, qui était l'ancien directeur, il vient de prendre sa retraite, de la recherche et développement à EDF, qui viendra nous parler de ce que fait EDF dans le domaine de l'énergie. Il ne fait pas que du nucléaire, et loin de là. Et vous allez découvrir tout un EDF inconnu. EDF travaille pratiquement sur tous les sujets qui ont trait à l'énergie. Alors, Michel ?
Oui, c'est de nouveau à moi. Pour le cinéma, nous n'avons qu'une seule conférence, mais certainement très intéressante, sur Jean-Jacques Zilberman, humour et autobiographie, par Véronique Assadas.
Alors, je pense qu'elle viendra plus souvent les années prochaines. Elle a passé deux années un peu difficiles avec des problèmes de santé, et là, elle semble être sortie un petit peu de cette période difficile. Voilà.
En musique, toujours beaucoup de conférences intéressantes. Joël Farinck nous parlera de Nadia et Lily Boulanger, deux compositrices. Les compositrices, c'est déjà assez rare, deux sœurs en plus. Et elle continuera sur la poésie et la musique française au XIXe siècle. Toujours en conférence, Monsieur Hubert Humeau, dont on parlait tout à l'heure, nous fera trois conférences sur la chanson, la voix. Histoire et pratique de la chanson française, de Vaudevire à Jacques Brel. Alors, Vaudevire, j'ai été regarder, hein, c'est début du 15e siècle. Jacques Brel, tout le monde connaît. Musique savante, opérette, opéra comique, opéra. Cette conférence, comme c'est indiqué, sera illustrée par des chanteurs et un pianiste, donc particulièrement intéressant. Troisième conférence de Monsieur Humeau, la voix comme instrument de musique. Il a choisi le barbier de Séville pour illustrer cette conférence. Toujours en musique, Stéphane Varnet nous parlera d'une œuvre, le concerto en sol majeur pour piano de Maurice Ravel, et il nous parlera justement des clés d'écoute. Et il nous fait aussi une conférence illustrée sur le sextuor à cordes de Tchaïkovski. Alors, pour ce qui concerne Amandine Robillard, elle nous fait une conférence sur Bach avec un titre un peu énigmatique, ma foi, on verra. Bach à la loupe, voyage harmonique sur la première suite.
Alors ça, ce sera au petit théâtre de la Grand Rue. Là,
au théâtre Piccolo.
Non.
Au grain de sel.
La boîte à sel, comment ça s'appelle?
Au grain de sel.
Oui, le grain de sel, voilà. Donc c'est une petite jauge, donc on demandera des inscriptions pour que tout le monde tienne, voilà. Et ensuite?
Ensuite, donc, l'histoire du théâtre, avec le théâtre de l'absurde, avec Artaud, Beckett et Ionesco. Et Gaël Abou nous parlera également du Antoine Vitesse, metteur en scène.
Bien, et donc on va terminer par deux extraits, on va dire. Traditionnellement maintenant, pour les grands voyages, nous demandons à un des participants du grand voyage de nous faire soit un petit diaporama, soit un petit film. Et là, Pierre Gaudry, qui nous a déjà fait les films sur le Brésil et sur le Japon, donc nous fera un petit film sur les pays baltes, qui est un voyage qui a lieu à la mi-juin. Et la bibliothèque municipale nous propose à nouveau une animation autour des globes de la salle de lecture. Voilà donc le programme des conférences de l'année 2019-2020. C'est plein à bloc et donc il y en a pour tous les goûts. Donc essayez de convaincre non seulement vous-même mais vos amis de venir nous rejoindre pour écouter ces conférences passionnantes. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Je rappelle que nous avons ce que nous appelons des activités complémentaires, qui sont les ateliers divers, que je vais passer très rapidement en revue. L'objectif de cet exposé, ce n'est pas de rentrer dans le détail, simplement de donner juste un petit coup d'œil, puisque au mois de septembre, nous faisons une séance spécifique, détaillée, où tous les animateurs de ces groupes viennent d'expliquer ce qu'ils vous proposent. Donc là, c'est juste un balayage très rapide. Alors voilà la liste, une partie de la liste, si vous voulez. Déjà, tout ce qui concerne les langues. Hein. Le Wikipédia, on a un petit groupe qui travaille sur Wikipédia pour faire des fiches et les améliorer. Le groupe de Mathieu Pinette qui nous fait l'histoire de l'art avec trois sessions. Un groupe d'œnologie, ça se passe à Givry. La littérature, donc lecture et littérature. Le patrimoine écrit de Bourgogne, animé par Françoise, ici présente, qui fait des études littéraires et historiques sur des personnages importants de la Bourgogne, passés. La dictée d'autrefois, qui est un succès formidable. Liliane est là, non ? Sa modestie ne va pas en souffrir. Donc elle remporte tous les suffrages. Atelier d'écriture, marche. Alors je rappelle que nous avons un groupe de marche qui marche très bien, c'est le cas de le dire, avec Jean-Paul Gallet qui est l'animateur. Et ensuite que nous faisons des voyages petits, moyens, longs. Pas cher, moyennement cher et très cher, suivant la distance et la durée. Et donc, on vous proposera, alors, sur le site apparaîtra les projets pour l'année prochaine. Pour le moment, les projets de grands voyages, ce serait l'Irlande, puisque il y a un lien avec le thème du Brexit. Et l'autre destination, ce serait à nouveau la Toscane, puisque M. Capellazzi ne nous a pas laissé de place dans ses voyages. Et donc, on peut proposer un voyage un petit peu différent de ceux qui proposent. Voilà. Donc, ensuite, il y a tout le détail, mais je passe très rapidement. Donc, les langues, la littérature, l'histoire de l'art, l'informatique, Wikipédia, la dictée, l'écriture, l'économie et géopolitique. C'est un groupe de réflexion qui marche bien cette année. On a fait des bons sujets. Donc, c'est des commentaires faits en commun autour d'articles ou d'ouvrages sur cette thématique-là. De la même façon, éthique et société. Et donc, l'année prochaine, le thème, c'est mondialisation et comportement individuel et collectif et avec le filtre de l'éthique. Voilà. Avec le même système de fonctionnement. Atelier d'énologie. Donc, alors là, ça marche bien parce que maintenant, si vous voulez, à la fin d'un cycle, il y a 7 ou 8 séances, eh bien, les participants, ils sont 12, 14, demandent à l'animateur, nous, l'année prochaine, on voudrait tester tel type de vin, telle région, etc., etc. Et il bâtit son programme en fonction des souhaits des participants. Voilà. Alors, je réinsiste à nouveau sur le fait qu'on fait quelques conférences débats sur un thème, donc des cafés philo par exemple, ou des conférences débats sur des sujets qui ne sont pas directement liés à la philosophie. Comme je l'ai dit tout à fait au début, on souhaite à peu près une fois par mois qu'un des adhérents fasse une conférence parce qu'il a une spécialité particulière ou il a une expérience professionnelle qui est intéressante à partager. On appelle ça les lundis de l'UTB. Et j'insiste sur deux autres thèmes. Alors, Françoise, vous pouvez en dire deux mots, là. Elle est toujours là?
Oui.
Mais le groupe Patrimoine?
Oui, nous avons publié déjà plusieurs livres qui sont toujours en vente. Le dernier concerne le conte Claude Philibert de Rambuteau. Nous allons rééditer l'ouvrage de Léo Lacroix, qui est son journal. Qui est épuisé actuellement et donc nous allons le rééditer nous nous engageons le groupe Patrimoine Écrit dans la rédaction, enfin déjà dans la recherche à propos d'un personnage qui a marqué et notre histoire et notre histoire locale. Il s'agit de François Mitterrand. Et voilà, pour publier un petit ouvrage, on ne va pas faire, il y a déjà eu beaucoup de publications, mais autour de François Mitterrand et la Bourgogne, et enfin, singulièrement la Saône-et-Loire et la Bourgogne. Voilà.
Alors, j'insiste un petit peu sur le fait que nous maîtrisons toute la chaîne éditoriale. C'est-à-dire, en amont, le groupe Patrimoine fait les recherches et la rédaction des textes, et la recherche des iconographies, et ensuite, on a des personnes qui sont capables de mettre ça en page, de faire des graphismes, de générer les couvertures et la mise en page, et de travailler avec des imprimeurs, et ensuite, nous avons un groupe, et ça, Michel va nous en parler, qui s'occupe de la commercialisation de nos ouvrages. Voilà.
Voilà. Oui, avec ma collègue Jeanne-Marie, ici même, on essaye de vendre, c'est pas toujours facile, de vendre les ouvrages qui sont édités par l'UTB. On fait un certain nombre de ventes annuelles, en particulier au mois de décembre, souvent en association, enfin pas souvent, tout le temps, en association avec la librairie Gibert. On fait un après-midi de vente, donc ça serait bien de venir nombreux. Je crois qu'à la fin du mois, il y a une vente également à l'UTB.
Oui, oui. Bon, donc, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
Effectivement, avec une association qui voulait se faire connaître, on a vendredi prochain une vente dans les locaux de l'UTB, hein, sur les éditions qu'on fait. Et je voulais signaler aussi une manifestation qui aura lieu à Mâcon, où on a déposé à l'Académie de Mâcon, ils étaient volontaires, si vous voulez, pour recevoir un certain nombre de nos livres. Et donc, évidemment, on a profité de l'occasion. Madame Bonnet, je ne sais plus son nom. Donc voilà, Madame Bonnet, voilà.
Bien, alors merci. Vous parlez de la bibliothèque.
Oui, alors en parallèle, toujours dans les livres, nous avons à l'UTB un fonds d'ouvrages importants, issu d'un legs que nous avons donc inventorié, répertorié, disposé, et qui sont à votre libre disposition pour les emprunter. On a à peu près 600 ouvrages sur des sujets très variés, mais essentiellement histoire, histoire locale, littérature, histoire de l'art. Cette bibliothèque est ouverte le premier et le troisième vendredi de chaque mois, de 10h à midi. Mais si bien sûr vous venez en dehors de ces horaires-là, je pense que les dames de l'accueil voudront bien vous ouvrir la bibliothèque sans problème. Nous n'avons pas beaucoup de clients jusqu'à maintenant. J'aimerais bien qu'on prenne l'habitude de venir nous voir, d'autant plus qu'on a quand même un certain nombre d'ouvrages qui sont en liaison directe avec les conférences qui ont été données, qui seront données. Donc ça permet de prolonger un peu l'intérêt de la conférence.
Voilà, merci. Donc, la marche, nous en avons déjà parlé, les voyages également. Donc, les conférences débats, je les ai évoquées. Exposé des adhérents, les lundis du TB, les éditions. Voilà, la marche. Voilà. Alors, l'avis de l'association, je rappelle, je le dis d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, nous sommes une association et pas une entreprise culturelle. Nous sommes une association. Nous ne vivons que des cotisations de nos adhérents, sauf les petits excédents que peuvent éventuellement nous apporter la vente de nos livres, mais disons, c'est marginal dans l'ensemble du budget. Donc, la vie de notre société, elle est interne, mais elle est également externe, c'est-à-dire il faut faire une promotion permanente de nos activités pour que le maximum de personnes nous rejoignent et contribuent à financer nos activités. Alors, on travaille par nature avec tout le monde. Hein. Donc, voilà la liste des gens avec lesquels on travaille sur la place. Évidemment, pour les résumer, c'est tout le monde. Hein, voilà. Et on a d'excellentes relations avec tout le monde. On est pour la paix des ménages, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne bien. Alors, une petite piqûre de rappel sur le site Internet. Donc, nous avons un site Internet qu'on essaye de faire le mieux possible et qui a la particularité donc de donner toutes les informations sur nos activités, surtout en temps réel. J'insiste beaucoup. Et le site, il est compatible avec les téléphones portables, les smartphones. C'est-à-dire qu'on a des alertes, s'il y a des annulations ou des modifications de programme de dernière minute, on essaye de les mettre de telle façon que le maximum de gens soient prévenus. Je vous ferai une petite démonstration après. Donc, on peut voir le CV des conférenciers, on peut voir le détail des conférences, et surtout, on peut voir, c'est-à-dire les conférenciers, pour essentiel, 90% nous donnent leur support visuel, c'est-à-dire leur PowerPoint, comme ça, et également l'enregistrement qu'on a fait de leur exposé. Alors ça a deux avantages, c'est-à-dire ça, on archive tout ça, mais surtout si vous avez loupé la conférence ou si vous voulez la réécouter pour en savoir un petit peu plus, eh bien vous avez ce qu'on appelle en France, en bon français, le replay, comme à la télé, qui vous permet de réécouter des conférences passées, soit que vous les avez manquées, soit que vous souhaitez les réécouter à nouveau. Je vais vous faire une petite démonstration. Ça marche sur les tablettes, ça marche sur les téléphones. Comme moyen de communication, donc voilà, bien sûr, on peut tout faire avec le site, sauf le café. On peut également s'inscrire par le site. On a une formule, évidemment, qui vient tout de suite dans la foulée. C'est ce qu'on appelle l'adhérendissance, c'est-à-dire des gens qui n'habitent pas ici ou dans la région et qui sont intéressés par nos activités. Eh bien, comme on a et les supports et l'enregistrement audio, on peut les écouter. C'est relativement marginal. Il y a une vingtaine de personnes qui prennent cette formule-là, mais c'est toujours ça qui met un peu d'argent dans les épinards. C'est un petit complément, si vous voulez. Alors, une grande nouveauté l'année prochaine, et là, on en parlera beaucoup entre aujourd'hui et le début de la nouvelle saison. Avant de vous montrer de quoi il s'agit, premièrement, je parle des ateliers. Les ateliers, nous avons changé le système l'année dernière. On ouvre les inscriptions aux ateliers dès le 1er septembre, chose que l'on faisait beaucoup plus tardivement avant. Le retour d'expérience est extrêmement positif. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous permet d'engranger les inscriptions et surtout d'organiser les plannings et l'occupation des salles le plus en amont possible, de telle façon que ces ateliers puissent démarrer le plus vite possible. Le début d'activité des ateliers, ça varie entre la mi-octobre et le début novembre, si vous voulez. Donc, si on a anticipé ce phénomène-là, eh bien, c'est plus facile pour nous. Pour faire ça, eh bien, toutes les fiches d'inscription sont sur Internet. Et évidemment, si on veut passer au bureau, si on n'a pas ces moyens-là, on peut le faire également en passant au secrétariat, il n'y a pas de problème. Deuxième nouveauté, c'est nous allons changer les cartes d'adhésion. Et voilà des cartes, la nouvelle carte d'adhésion. Je vous la montre, c'est un format carte de crédit. Voilà, hein, comme ça. Et donc, quand vous allez aller vous inscrire, eh bien, on vous donnera cette carte-là. Et nous avons déjà imprimé toutes les cartes des adhérents de l'an dernier. Donc ça, on gagnera du temps. Et donc, on fera juste l'enregistrement de la nouvelle cotisation, la vérification que les informations sont correctes, téléphone, adresse email, etc. etc. Ensuite, on vous remettra votre carte. Alors, la contrainte de cette carte, c'est qu'on va faire un contrôle des cartes d'entrée avec une petite douchette, hein, vous savez, un petit scan à l'entrée, comme au supermarché. Hein. Et donc, il faudrait que vous ayez absolument cette carte à la main. Donc, on ne rêve pas, on sait qu'il y a un temps d'adaptation. Donc, ayez le réflexe d'avoir cette carte à disposition et pas dans le fond du sac de madame qui est perdue au milieu des trousseaux de clés. Donc, sortez-la bien avant. Donc on vous en reparlera, hein, pour vous motiver. Donc les conférences ne commencent que début octobre, donc on a le temps un petit peu de s'y habituer. Donc ensuite, on aura un contrôle, voyez comment ça va se passer. Hein. Donc une dame qui est... alors là, évidemment, on a fait ça au bureau. Hein, une dame qui est à l'entrée, qui regarde l'application de contrôle des cartes. Une autre dame qui scanne la carte et puis l'adhérente qui vient rentrer dans la salle. Voilà. Donc, on vous en reparlera plus dans le détail. Alors, donc je fais la synthèse un petit peu du cycle de conférences. Nous avons 115 conférences, 10 conférenciers nouveaux sur un total de 68. Alors, par rapport aux années précédentes, on a moins de conférenciers nouveaux, tout simplement parce que tous ceux qu'on a invités l'année dernière, on les a trouvés très bons et on les a réinvités. Donc, un conférencier nouveau, il a vocation à devenir un conférencier ancien. Voilà, si on était satisfait de sa prestation. Voilà, programme diversifié, comme toujours, et faites le savoir autour de vous. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous essayons, si la technique veut bien fonctionner, de chercher Bon, déjà, j'ai Internet, c'est déjà pas mal. Donc, favori, UTB. Et Miracolo. Le bandeau a changé. Et toutes les nouvelles conférences. Voilà, toutes les nouvelles conférences que je viens de vous exposer sont sur le site. Donc vous pouvez aller les voir, et avec le planning de toutes les conférences, et les dates, et les salles. Alors tous ces codes, si vous voulez, on n'a pas mis ces couleurs-là comme des un petit peu au hasard. Si vous voulez, tout ce qui est rouge, orange et tout, ça a une relation avec l'histoire de l'art, si vous voulez. C'est ce qui est artistique. Tout ce qui est bleu, c'est de l'histoire. Tout ce qui est vert, c'est de la géopolitique ou de la technique. Voilà. Et c'est un moyen mnémotechnique, si vous voulez, qui vous permet d'identifier les grandes familles de conférences, un moyen visuel simple. Pour regarder une conférence, eh bien, vous allez tout simplement vous cliquer dessus. Après, il y aura bien sûr un résumé, il y aura une petite photo ici, et voilà. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est surtout... Alors, j'espère que ça va marcher, parce que tout à l'heure, on avait un petit problème technique, évidemment, quand on veut faire une démonstration. Donc, avant d'aller jusqu'à la conférence, vous voyez, vous avez toutes les conférences. Si vous voulez voir les conférences à venir, évidemment, retrouvez la même chose. C'est, voilà, tout ce qui va se passer d'ici le début de la saison. Donc, aujourd'hui, on est ici. On est présent, comme d'habitude, au Forum des associations. On refait ce type de présentation début septembre. 15 jours après, on fait une présentation des ateliers, ici, et les conférences démarrent début octobre, 1er octobre. Ensuite, la présentation, donc, quand vous allez dans une conférence, je prends n'importe quoi, par exemple, l'art byzantin, monsieur Curnier-Laroche, vous avez sa photo, et vous avez son CV. Donc vous savez exactement de qui il s'agit. Je rappelle ici, on a un menu bibliothèque, c'est-à-dire que tous les livres qui sont à la bibliothèque, vous les voyez ici affichés. Donc ça vous permet de choisir. Donc il y a les copies des couvertures, hein. Donc c'est assez complet, hein. Et quand vous voulez avoir un détail, eh bien vous allez sur, je prends n'importe quoi, hein. Voilà, vous avez un petit résumé du bouquin et vous avez un petit topo sur l'auteur. Et vous voyez que dans la bibliothèque, il y a deux livres de cet auteur qui sont présents. Voilà. Groupes et ateliers, on verra, tous les groupes d'ateliers sont ici dans la marge et vous avez les différentes choses là. Donc les différents ateliers qui apparaissent. Bon ben vous voulez avoir économie et géopolitique, voilà, par exemple, je prends au hasard. Et vous avez voilà les sujets qu'on a traités cette année dans le machin, par exemple, l'évolution de la grande distribution. Bon. Et vous avez des choses comme ça, voilà la bibliographie, et vous avez le document de synthèse qui a été écrit par le pilote de l'action. Voilà, donc le site, non seulement c'est un outil d'information pour les conférences, mais c'est aussi un outil de travail pour les gens des groupes pour se partager les documents et les informations. Alors, je tente une opération audacieuse parce que à midi, il y avait un bug. Donc, c'est sans garantie. Donc, Déjà, je me connecte. C'est déjà pas mal. Donc, je vais aux conférences. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les conférences de l'année dernière. Alors, les conférences de l'année dernière, c'est-à-dire du moment où on est, je prends 2017-2018. Donc, c'est les conférences qu'on a faites cette année. Donc, je vais prendre... Comment ? Quel est le problème, là ? Je n'ai pas compris, là.
Les conférences de l'année d'avant.
Oui, de l'année d'avant. Donc, j'ai mal visé, là. Voilà.
Il
n'y
est pas.
Ah, il n'y est pas, oui. Parce qu'il est masqué. Mais, bon, ça fait rien. J'en prends une au hasard. Hein. Biomimétisme, voilà. Et je vais dans les documents. Et là, en cliquant sur le bouton, je peux télécharger le visuel de la conférence. Et quand je vais sur audio, je vais là, Alors, le problème, c'est que j'ai pas de débit ici. Hein. J'ai coupé le son, oui. Alors, je recommence.
Pour son avion 3, mais quand même...
Amenez-moi le micro, là, s'il vous plaît.
Il y a aussi dans le domaine de l'architecture. Les gens se sont inspirés de la nature. Donc là, c'est l'exemple d'Antonio Gaudi, qui affirme avec force, je n'invente rien, je copie le livre... Tout de rentable. Et il faisait la comparaison entre la permaculture et puis la monoculture. Donc il prenait le cas d'un
exemple. On n'a pas le temps. Oui.
Et sur une surface qui est divisée par 4, en permaculture, ils ont...
Donc, en clair, vous pouvez écouter la conférence et en faisant défiler les images en parallèle, si vous voulez. Ou alors, si vous ne voulez pas être sur votre ordinateur, vous téléchargez les fichiers et vous pouvez les mettre sur un appareil mobile, un baladeur, un téléphone portable, etc., avec une oreillette. Vous pouvez écouter les conférences dans votre radio. Moi, j'ai mon gendre qui écoute des conférences en adhérent distant sur le site, qui les met sur une clé USB, qui les met dans son autoradio, il a 25 km à faire pour aller à son travail, donc il écoute les conférences de l'UTB en allant à son travail. Voilà. Bon, il y en a qui écoutent RTL, ben lui, il écoute les conférences de l'UTB. Il est parfait. Donc, j'ai mis donc en ligne les conférences de cette année entre 1h et 1h15 aujourd'hui. Et donc évidemment à 1h25, il y avait un bug et il n'y avait rien qui marchait. Et donc heureusement j'ai pu joindre le développeur et il y avait un petit truc à régler. Et donc il a déverrouillé la chose. Donc apparemment ça fonctionne. Voilà. Donc une nouvelle année apparaît et puis voilà, vous pouvez aller sur le site. Voilà, là vous pouvez applaudir. Merci. Alors j'ai quelques annonces complémentaires à faire. Nous avons des partenariats avec l'Espace des Arts qui nous réserve pour un certain nombre de spectacles des places à prix préférentiel, mais surtout réservées au sens des places, si vous voulez. Alors, tout ça va être dans le bulletin que vous venez de recevoir. En particulier, il y a le théâtre Plume, hein, ça s'appelle comme ça, le cirque Plume, qui est très demandé. Donc, si vous voulez des places, il faut se pointer tout de suite au secrétariat pour les réserver. Hein. Ça, c'est une première information. Deuxième information, on nous apporte beaucoup de pubs pour des manifestations diverses et variées proposées par d'autres associations, si vous voulez. Et en particulier, là, on a reçu une petite plaquette qui s'appelle « La manufacture d'idées Ça va se passer du 29 mai donc au 2 juin. C'est demain, hein, pratiquement. Ça se passe à Urigny, c'est au nord de Mâcon. Hein, et la thématique principale, c'est un petit peu l'écologie et la préservation de la nature, si vous voulez, au niveau de disparition des espèces, voilà, des choses comme ça. Il y a des séries de conférences, il y a des ateliers. Il faut s'inscrire. Donc, il y a une dizaine de plaquettes comme ça qui sont sur la table à la sortie. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous en prenez une. Ça me paraît assez intéressant. Voilà.
Il y a des questions.
Oui. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à la salle. Il paraît que d'aucuns veulent me poser des questions. Questions ? Oui ?
Est-ce qu'il est prévu que M. Guémantia fasse la conférence qu'il n'a pas pu faire au mois d'avril?
Bien sûr, oui, oui.
Pardon?
Oui, bien sûr, oui, oui. Oui,
oui, oui.
Mais je ne l'ai pas mise, mais il faut qu'on trouve une date, si vous voulez.
D'accord. Et deuxièmement, pour la conférence, justement, en rapport avec ces questions de M. Guémantia et sur Rousseau, Mme Mougin et moi-même, on proposait, comme on vous l'a dit, une conférence sur l'empirisme contemporain.
On va la faire, il n'y a pas de problème.
D'accord.
J'ai pas eu le temps de la mettre en musique dans la présentation. Si
bon, d'accord.
Pas de problème.
Quant au Café Zilo, vous pouvez poser à Mme Mougin et à moi-même les thèmes que vous voudriez qu'on traite au Café Zilo. Merci, monsieur.
Alors, comme vous avez été très sage, y a-t-il d'autres questions, d'autres demandes, d'autres commentaires? Donc, comme vous avez été sage, on va vous donner, sauf pour ceux qui en ont déjà eu, donc, une question? Vous avez une question? Non, j'ai cru que vous leviez le bras, excusez-moi. On va vous confier donc deux plaquettes par personne, donc une pour vous, et une à donner à une autre personne. Si vous en voulez plus, ce n'est pas un problème. On va limiter... C'est la pluie, là ? On va limiter à 5 par personne la distribution. Si vous en voulez plus, vous allez au secrétariat. Vous pouvez les demander. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Et puis... à bientôt pour les inscriptions et pour le début de la nouvelle saison. Je vous remercie. C'est grave. Alors, Monique.